Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à la Méditerranée. 2019 marque le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Après une phase de flou stratégique liée à la fin de la guerre froide, la Méditerranée est redevenue un lieu de concurrence entre les États-Unis et la Russie, lieu de concurrence dans lequel la Chine joue également une partition et non des moindres. À cette concurrence entre puissances globales est aussi venue se superposer celle entre puissances régionales qui se jouent des tensions méditerranéennes pour accroître leur influence. Guerre souterraine entre l'Arabie Saoudite et ses alliés émiratis égyptiens d'un côté, Turquie et Qatar associés parfois à l'Iran d'un autre. Regard sur les degrés d'implication des uns et des autres, Europe comprise bien sûr, et alors qu'on se demande parfois ce qu'elle entend faire de sa place de puissance riveraine. Focus sur les grands enjeux et les principaux défis, les foyers de crise et les ambitions des principaux acteurs. Nos invités, Jean Marcoux, directeur des relations internationales et directeur du Master Méditerranée Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
L'amiral Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, think tank basé à Toulon, après une carrière dans la marine en responsabilité à des échelons politico-militaires, et également fondateur de l'Observatoire stratégique des mondes méditerranéens avec un consortium d'universités. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Razou, historien spécialiste des conflits contemporains et des relations internationales, directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonjour.
Bonjour.
Pascal Hausseur et Pierre Razou qui ont dirigé la Méditerranée stratégique, laboratoire de la mondialisation. Et Igor Delanoë, spécialiste de la Russie, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe à Moscou, spécialiste particulièrement des intérêts et des ambitions de Moscou dans le bassin méditerranéen. Bonjour.
Bonjour.
Quelques mots pour resituer la Méditerranée, une mer semi-fermée qui représente 1% de la surface maritime mondiale, mais un carrefour majeur qui concentre pas moins de 25% du trafic maritime mondial, avec notamment le rail qui relie le canal de Suez à Gibraltar. Un espace que bordent 22 États qui représentent 450 millions d'habitants, un bassin de fractures et de crises où s'expriment des rivalités territoriales et maritimes. Pascal Hausseur, la Méditerranée, miroir et concentrée de tous les enjeux de la mondialisation. Comment décrire ce qu'est la Méditerranée dans son ensemble aujourd'hui ? On la pensait, la Méditerranée, marginalisée sur le plan stratégique en raison du déplacement géographique, du centre de gravité géopolitique et géoéconomique mondial vers l'Asie du Sud et de l'Est. Est-ce qu'on s'est trompé ?
On s'est un peu trompé parce que oui, le centre de gravité se déplace vers l'Asie. Oui, une des zones les plus crisogènes du monde, c'est la mer de Chine du Sud. Mais la deuxième zone la plus crisogène du monde, c'est la Méditerranée. Et cette Méditerranée, elle est à nos portes, et donc ça justifie qu'on s'y intéresse. Pour moi, au-delà des enjeux économiques que vous avez évoqués pour notre pays, pour l'Europe, et d'une manière générale pour la mondialisation mondiale, c'est un poumon de l'économie mondiale. Cette Méditerranée, elle recouvre des enjeux qu'on retrouve un peu partout. Il y a des enjeux environnementaux. C'est une toute petite mer qui souffre de cet accroissement de son rôle économique dans tous les domaines. C'est aussi une zone qui est une zone de friction entre deux mondes. La notion Nord-Sud, finalement, est à sa pertinence la plus importante ici, en Méditerranée. Quand on superpose les cartes économique, de développement, d'accès aux ressources, de démographie, d'environnement et de sensibilité aux enjeux environnementaux, eh bien, on se rend compte qu'on a deux mondes qui sont très proches l'un de l'autre et en même temps très loin l'un de l'autre sur le plan économique, sur le plan sociétal, sur le plan politique et sur le plan démographique. Donc cette zone de friction, c'est une zone de tension. Et dernier facteur qui, là aussi, montre que la globalisation a un impact concret sur cette zone et cette région du monde, eh bien, c'est que à mon avis, les deux grandes tendances qu'on observe dans le monde, c'est-à-dire la fragilisation du multilatéralisme, est un facteur aggravant de ces tensions. Et la deuxième grande tendance, c'est la fragilisation, j'allais dire, sociétale, liée à Internet, aux réseaux sociaux, qui touche tous les pays, finalement, et notamment les pays ouverts. Et des pays ouverts, il y en a des deux côtés de la Méditerranée, rendent plus compliqué la gestion politique, l'établissement d'une véritable opinion publique, l'avenir des États-nations. Et ces facteurs, qui sont des facteurs de la mondialisation, on les retrouve dans cette région du monde. Et c'est pour ça que on peut dire que on a un concentré des enjeux de la mondialisation dans une petite zone, et que si on cherche à régler, à trouver des solutions concrètes pour améliorer le fonctionnement régional, peut-être que ça nous donnera des clés pour régler les fonctionnements mondiaux.
Alors, réaction à ce que vient d'évoquer Pascal Hausser, Jean-Marc Roux, Pierre Azou, Igor Delanoë, Pierre Azou.
Pour surenchérir sur ce que disait Pascal Hausser, en fait, je crois ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation d'aujourd'hui par rapport, par exemple, à la fin de la guerre froide, puisqu'on parle beaucoup d'un retour d'une logique de guerre froide, on va dire, dans le monde, entre les blocs, c'est qu'à la limite, pendant la guerre froide, la Méditerranée, finalement, était partagée, pour faire simple, entre pro-soviétiques et pro-occidentaux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout le monde joue. C'est-à-dire qu'il y a la multiplicité, tous les acteurs qui sont présents, par exemple, au Moyen-Orient, sont aujourd'hui présents en Méditerranée, tous. Les grandes puissances, la Chine, les puissances régionales, les grandes organisations internationales. C'est-à-dire, en fait, c'est devenu un condensé de toutes les rivalités, comme le Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer le Moyen-Orient est compliqué, la Méditerranée est simple. Non, la Méditerranée est au moins aussi compliquée que le Moyen-Orient. Le deuxième point, c'est de dire, me semble-t-il, qu'en fait, le débat fondamental, qui est toujours pas tranché, c'est est-ce que la Méditerranée, c'est une barrière ou c'est un pont entre les deux rives, ou les trois rives même de la Méditerranée, la rive nord, la rive sud et la rive est, qu'on oublie trop le Levant. Et là, bien entendu, sur le plan politique, dans un peu tous les pays, aussi bien au sud qu'au nord, il y en a qui voudraient que ça reste une barrière, parce que finalement, ils sont très bien chez eux, les islamistes au sud, les populistes au nord. Et d'autres, au contraire, qui sont raisonnables et qui disent, non, on est tous, pour, si vous me passez l'expression, dans la même galère, pour parler de Méditerranée. Et donc, en fait, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et le dernier point, c'est de dire l'idée qu'il ne faut pas raisonner non plus que sur la Méditerranée. La Méditerranée, c'est un continuum. C'est l'artère jugulaire des économies mondialisées qui relie finalement l'Atlantique, la Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Indien, l'Asie. Et donc, en fait, on ne peut pas comprendre le caractère stratégique de la Méditerranée, stricto sensu. Il faut l'élargir à la mer Noire, à la mer Rouge, voire même à l'océan Indien. Donc, en fait, c'est un continuum.
Jean-Marc Roux.
Oui, moi, ce qui me frappe notamment, c'est que il y a en Méditerranée, il y a une transformation des conflits, puisque au-delà de la confrontation est-ouest à l'époque de la guerre froide, on avait surtout le conflit israélo-palestinien qui, on doit le rappeler, a fait échouer dans les années 90 ou a rendu en tout cas illusoire les tentatives de coopération en Méditerranée qu'ont été notamment le partenariat Euro-Méditerranée et ensuite l'UPM. L'Union pour la Méditerranée. Ces conflits sont un peu, je dirais, dépassés aujourd'hui par il est un peu dépassé aujourd'hui par d'autres conflits, notamment le conflit syrien, ce qui se passe en Libye, également même la confrontation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et puis en Méditerranée, je trouve se manifestent des grands problèmes aujourd'hui internationaux. Je pense d'abord aux questions migratoires, avec finalement ce qui se passe en Libye, en Italie, mais enfin qui affecte tous les pays du Sud. À l'heure actuelle, les pays du Sud, notamment les pays du Maghreb, sont affectés par cette question migratoire qui n'est pas simplement qu'un problème Sud-Nord, mais qui est un problème Sud-Sud très important, puisque quand on regarde les migrations à l'heure actuelle, les 10 pays où il y a le plus de déplacés dans le monde sont d'abord finalement des pays en voie de développement ou des pays émergents. Le problème énergétique également, qui s'est ravivé avec les découvertes de gaz qui sont considérables dans l'est de la Méditerranée et qui concernent notamment l'Égypte, Israël et Chypre à l'heure actuelle, et qui ravivent aussi d'une certaine manière les tensions avec la Turquie, le conflit chypriote, et puis les questions environnementales qui sont considérables. Et derrière, à mon avis, toujours dans cette idée de reflet de la mondialisation, il y a une grande puissance qui est en train de se profiler, alors sans fantasmer sur des porte-avions chinois qui ne sont peut-être pas encore à l'œuvre. En revanche, il y a une présence chinoise et la Méditerranée, on le voit très bien, est en train d'entrer pour les Chinois dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Ça n'apparaît pas urgent tout de suite, mais on sent bien qu'il y a là un nouvel équilibre qui est en train de se profiler.
Alors la présence chinoise en Méditerranée dont nous parlerons dans l'émission de demain. Igor Delanoë. Danoé.
Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'aspect donc laboratoire de la mondialisation projetée sur l'espace méditerranéen. Je rajouterais peut-être deux points. Tout d'abord, j'ai le sentiment que la Méditerranée est redevenue vraiment un centre. C'est-à-dire qu'on a pu avoir le sentiment après 1991 que elle s'était un petit peu périphérisée dans le sens où elle devenait véritablement, étant entendu la disparition de la marine soviétique, etc., ce qu'a rappelé un peu Pierre dans son introduction, qu'elle devenait vraiment une sorte de Mare Nostrum otanienne, complètement un petit peu dans le voisinage méridional de la communauté euro-atlantique, et que personne finalement pouvait vraiment contester ce monopole, et on ne voyait plus vraiment de compétiteurs. Et aujourd'hui, on voit qu'elle redevient véritablement un centre, un carrefour pour des ambitions, un carrefour pour des intérêts, et un centre de contestation. Je pense qu'on en parlera plus tard dans l'émission. Et le deuxième point, moi je vois une montée en puissance, la dimension véritablement maritime, la maritimité, si vous voulez, la Méditerranée. On l'a vu avec la question des migrations, des migrants, l'arrivée ou le retour de forces navales présentes en Méditerranée. On peut parler de la Russie, on va certainement en parler, de la Chine aussi, de l'Iran aussi, qui parfois envoie des navires. La montée en puissance de marines sur la rive sud, on peut penser à la marine algérienne par exemple, mais aussi la marine israélienne, la marine turque. Donc moi je vois une montée en puissance de cette dimension maritime et navale, parce qu'il y a l'aspect à la fois commercial et puis l'aspect militaire, qui là aussi, après 1991, a été mis peut-être à tort d'ailleurs, entre parenthèses, ou en tout cas a été négligé pour un tas de raisons.
Alors évidemment, Pascal Hausser, je vous fais réagir et on reviendra sur l'émergence de la Turquie, de la Russie. Igor Delanoë, Pascal Hausser évoquait à l'instant la maritimité de la Méditerranée, montée en puissance de la marine. C'est évidemment un sujet qui vous incombe plus particulièrement.
Oui, et moi je l'ai vécu en tant que marin pendant les 40 années que j'ai passées au sein de la marine et des forces armées. Après la guerre froide, il y a eu une espèce de stabilisation, la période de la fin de l'histoire finalement, où on a cru que tout était terminé et finalement il n'y avait plus d'enjeux à terre et donc plus pas de raison d'y avoir des enjeux en mer. Parce que finalement, la remontée des tensions en mer, c'est la conséquence des tensions à terre qui se recréent. Tous les problèmes qu'on a évoqués finissent à un moment par impacter l'action en mer. Alors c'est l'action économique. Maintenant on sait faire des forages très profonds et donc on a un sujet avec l'exploitation des hydrocarbures pour l'instant en Méditerranée orientale, mais pourquoi pas bientôt en Méditerranée occidentale. C'est à la fois une bonne nouvelle, mais c'est aussi un risque environnemental. Et puis ça crée des tensions entre les pays pour savoir qui va s'approprier cette ressource. Et donc on militarise la mer. Et puis quand on a des conflits à terre, eh bien on a des soutiens. Pour apporter un soutien militaire à ces conflits à terre, eh bien on déploie des porte-avions, on déploie des avions, on déploie des bateaux amphibies. C'est ce qu'ont fait les Russes qui, lorsque je suis rentré dans la marine au début des années 80, avaient quasiment pas de port d'attache. Ils étaient la plupart du temps au mouillage et donc ils étaient extrêmement vulnérables face à la marine américaine et aux marines de l'OTAN. Aujourd'hui, les Russes sont comme chez eux à Tartous. Ils ont maintenant une vraie implantation dans la durée et ils sont maintenant, on peut presque le dire, un pays riverain de la Méditerranée. Et tout ça incite les autres à faire de même. Et donc, il y a une militarisation, effectivement, sur l'eau qui est à l'image de la militarisation à terre également, dans cette zone, une fois encore, qui est extrêmement chrysogène.
Alors, la Russie, pays riverain de la Méditerranée. On peut juste rappeler pour nos auditeurs et remettre les choses un tout petit peu en place, simplement pour dire qu'à la fin de la guerre froide, la Méditerranée était finalement devenue un lac de l'OTAN, où, je parle sous votre contrôle, Pascal Hausser, où la 6e flotte des États-Unis était de loin l'acteur principal, avec son QG basé à Naples. Alors, les choses ont depuis bien changé, on l'a dit, vous l'avez évoqué. Alors peut-être que les questions d'environnement, malheureusement, on ne les fera pas rentrer dans le cadre de cette émission. On s'attachera davantage aux questions stratégiques. Donc la Méditerranée, elle a changé de visage ces dernières années, au bénéfice du réveil de vieux conflits ou d'éveil de nouvelles querelles. Alors vous l'avez dit, pour décrire la Méditerranée aujourd'hui, il y a cet espace nord-sud. Il y a aussi la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale, avec finalement des préoccupations très largement différentes, pour résumer. On va peut-être se concentrer sur la partie orientale de la Méditerranée pour commencer, partie qui concentre aujourd'hui le plus fort de l'actualité, conflit syrien, israélo-palestinien, contestation au Liban, etc. L'occasion donc de parler de ces puissances globales et régionales évoquées en introduction. Le président turc, Jean-Marc Roux, il était cette semaine à Washington, où il a rencontré Donald Trump. Les sujets, on peut aisément les imaginer. Incursion turque dans le nord de la Syrie, achat par Ankara des appareils russes S-400. La Turquie, membre de l'OTAN, qui fait son marché chez les Russes, c'est pas sans poser quelques problèmes. Est-ce qu'on peut dire que finalement, au bénéfice de la crise syrienne, et pas seulement, sans doute, on a vu ces dernières années deux puissances émerger, Russie d'un côté, Turquie de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire de la posture de chacun de ces deux pays en Méditerranée aujourd'hui, Jean-Marc Roux?
Ah ben oui, et là, je crois qu'on est au cœur aussi de cette transformation des équilibres, parce que effectivement, la Turquie, pour l'instant, est toujours membre de l'OTAN, est toujours candidate, et de temps à autre ravive sa candidature de manière surprenante. Pourquoi de manière surprenante? Parce
candidature.
Qu'en même temps, à l'Union européenne.
Oui, on a un peu l'impression que cette candidature, elle est enterrée.
Oui, elle est gelée depuis une dizaine d'années, mais en même temps, actuellement, la Turquie fait une réforme du pouvoir judiciaire et annonce que ça fait partie de la réactivation de sa candidature. Donc, c'est ça qui est assez ambigu, parce qu'en même temps, on a cette appartenance, justement, toujours aux alliances occidentales, et en même temps, un rapprochement avec la Russie, qui a été au départ interprété comme un rapprochement de conjoncture, mais dont on voit bien qu'il est de plus en plus construit. Il est construit sur le plan énergétique, parce que la Turquie et la Russie sont mutuellement dépendantes, d'ailleurs, sur le plan du gaz, parce que c'est aussi pour la Russie un très bon partenaire, un très bon acheteur de gaz. Cette relation, donc, s'est construite. Les Russes et Turcs sont en train de construire ce gazoduc Turkish Stream, qui a un grand intérêt stratégique pour la Russie aussi, parce qu'il va permettre de contourner effectivement l'Ukraine, hein, le corridor sud gazier. La Turquie a acheté effectivement des missiles de défense aérienne S-400, et on peut se demander comment ce système va être compatible avec l'appartenance de la Turquie avec l'OTAN, mais c'est un effet domino, parce que l'achat des S-400 risque d'entraîner une exclusion définitive de la Turquie du programme de construction, enfin qui est déjà très avancé, de l'avion F-35 américain, Lockheed Martin. Et donc, si c'est le cas, il faudra que la Turquie s'approvisionne ailleurs, et on peut se demander comment un pays de l'OTAN va pouvoir fonctionner avec du matériel russe à ce niveau-là. Donc, effectivement, il y a une évolution stratégique. Alors, bien évidemment, on peut s'interroger sur cette relation russo-turque, parce qu'en même temps, ce n'est pas véritablement un substitut à l'OTAN, ce n'est pas une alliance, une convergence militaire aboutie et un accord abouti. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il reste des différents forts entre la Russie et la Turquie. Je pense à la Crimée. La Turquie n'a jamais admis l'annexion de la Crimée. Je pense même au conflit syrien, sur lequel les deux puissances se sont rapprochées, mais où elles ne soutiennent pas les mêmes acteurs. Et il y a encore des bombes à retardement dans le conflit syrien qui peuvent opposer la Russie et la Turquie, comme par exemple le sort de l'enclave d'Idlib. Donc, il y a toute une... Et en même temps, on sent bien que peu à peu, je dirais, par cette coopération gazière, par cette coopération militaire, par cette coopération nucléaire, puisque les Russes vont construire la première centrale nucléaire en Turquie, d'une certaine manière, la relation entre la Turquie et les pays occidentaux, elle est en train de se vider un peu de sa substance. Donc si... la Turquie et la Russie ne sont pas encore vraiment alliés, en même temps, on peut se demander si les Occidentaux et la Turquie sont toujours vraiment des alliés.
Géopolitique, on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission avec vous, Jean-Marc Roux, Pascal Hausseur, Pierre Razou et Igor Delanoë, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Méditerranée. Nous retrouvons nos invités. Jean Marcoux, directeur des relations internationales et directeur du master Méditerranée Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble. L'amiral Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, think tank basé à Toulon et fondateur de l'Observatoire stratégique des mondes méditerranéens avec un consortium d'universités. Pierre Razou, historien spécialisé dans les conflits contemporains et les relations internationales, directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Pascal Hausseur et Pierre Razou qui ont dirigé la Méditerranée stratégique, laboratoire de la mondialisation, et Igor Delanoé, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe à Moscou, spécialiste de la Russie et particulièrement des intérêts et des ambitions de Moscou dans le bassin méditerranéen. Nous avons terminé la première partie de l'émission en parlant de la Turquie et en rappelant la visite cette semaine à Washington de Recep Erdogan. Le président turc a pu rencontrer le président américain avec des sujets qu'on pouvait imaginer aisément, en particulier l'incursion turque dans le nord de la Syrie et l'achat par Ankara des appareils russes S-400. La Turquie, dont on peut rappeler qu'elle est membre de l'OTAN et qui fait son marché chez les Russes, c'est évidemment un problème. Igor Delanoé, dans les années 80, la Russie n'était pas en Méditerranée. Ils ont, les Russes, aujourd'hui, une base à Tartous, vous l'avez évoqué, mais Tartous, donc un port syrien. Ils ont donc mieux que ce qu'ils ont jamais eu finalement en Méditerranée, et d'une certaine manière ils font un peu les Russes ce qu'ils veulent aujourd'hui dans cet espace maritime et terrestre.
Je crois que tout à l'heure on parlait de retour de l'histoire dans notre introduction, et pour le coup lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie en Méditerranée, on est véritablement dans ce cadre-là. Cela fait 250 ans que la Russie est une puissance en Méditerranée, qu'elle prétend y maintenir une présence. Alors cette histoire a été ponctuée de périodes de reflux, après la guerre de Crimée dans les années 1860-1870, après la révolution de 1917, le pays est évidemment considérablement affaibli, et ensuite après 1991. Mais finalement la parenthèse que nous avons connue depuis on va dire les années 90 et 2000, où la Russie était relativement peu visible sur la scène méditerranéenne, s'est refermée depuis le début des années 2010, et lorsqu'on regarde par rapport aux 250 dernières années, ce n'est pas véritablement étonnant. Après la guerre de Crimée, la défaite russe en guerre de Crimée en 1856, il a fallu 2 décennies à l'Empire russe pour redevenir une puissance en Méditerranée orientale. Le traité de San Stefano en 1878 est signé dans les faubourgs d'Istanbul, avec les armées russes qui prennent leur quartier dans les faubourgs d'Istanbul, un peu plus de 20 ans après qu'une coalition occidentale ait défait l'Empire russe à Sébastopol. Donc finalement, là, on assiste véritablement à une répétition un peu, je dirais, cyclique de ce qui a déjà été vu par le passé. Il ne faut pas le négliger. Alors, évidemment, dans les années 80, l'Union soviétique en Méditerranée, c'était l'escadra soviétique, c'était une soixantaine de bâtiments de guerre déployés en permanence dans les eaux méditerranéennes, des sous-marins nucléaires, avec des objectifs complètement différents de ce à quoi on assiste aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en cadre d'une task force navale, d'une dizaine à une douzaine de bâtiments de support inclus, donc quelque chose de bien plus modeste, avec des plateformes très différentes, on pourra en reparler. Ça, évidemment, c'est une des manifestations, je dirais, les plus criantes et les plus étonnantes, parce qu'on s'attendait pas à voir les Russes déjà revenir, d'une part, et deuxième point, surtout pas les voir revenir sur le plan naval ou maritime. Je veux dire, spontanément, c'est pas ça qu'on pense lorsqu'on pense à la Russie en Méditerranée. Et pourtant. Et dernier point, je pense que il y a eu tout ce qui est lié au contexte post 2014 et donc post-crise ukrainienne, c'est-à-dire que après cette rupture avec la communauté euro-atlantique, la Russie a entrepris de réorienter une grande partie de ses relations vers les pays, notamment de la rive sud en Méditerranée, tout ça dans une logique de développer des relations avec les pays non occidentaux. Et évidemment, à cet égard, le Moyen-Orient, le Levant, l'Afrique du Nord, deviennent un terrain de jeu très intéressant, à la fois dans une logique économique, mais également dans une logique politique de contestation du leadership occidental, qui est aujourd'hui véritablement le narratif à Moscou.
Alors, Pierre Razou.
Il se trouve que j'ai navigué au début de cette année dans les eaux de Méditerranée orientale, de manière opérationnelle. Ce qui frappe les marins, c'est qu'aujourd'hui, et pas que les marins français, mais les marins, disons, occidentaux des nations riveraines européennes, c'est que paradoxalement, la marine russe en Méditerranée orientale est de nouveau très présente, donc quelque part est perçue, on va dire, entre guillemets, comme une menace, mais elle se comporte de manière très professionnelle. Je veux dire, il y a de la déconfliction qui se fait, il y a des canaux de discussion. Donc en fait, j'allais dire, chacun respecte assez bien les règles du jeu. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, c'est la marine turque et donc le pouvoir turc qui se comporte en perturbateur. C'est-à-dire que tous les marins vous diront, en tout cas ceux qui ont navigué récemment en Méditerranée orientale, qu'en fait le problème aujourd'hui ce sont les Turcs, c'est la marine turque. C'est la marine turque qui vient troubler l'exploration gazière au large de Chypre, qui vient se comporter de manière non amicale, voire parfois agressive, et qui ne respecte pas les règles du jeu de l'OTAN, alors même qu'elle est État membre de l'OTAN. Ce qui m'amène à parler d'Erdogan et rebondir sur ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. Je crois qu'en fait, Erdogan a compris qu'il gagnait plus en se comportant comme un perturbateur que comme, entre guillemets, un bon garçon ou un bon élève au sein de, on va dire, du jeu international. C'est-à-dire qu'il prend appui sur la stratégie de Poutine ou des Iraniens et il regarde en se disant finalement c'est en étant un perturbateur que je vais gagner beaucoup plus de points et beaucoup plus d'avantages, quitte à les négocier après en bilatéral avec les Américains. Donc ma compréhension, c'est qu'aujourd'hui, la Turquie essaye de donner en fait des gages à tout le monde pour préserver et accroître ses intérêts dans la région. Et en étant, en adoptant cette logique de perturbateur.
Jean-Marc,
la Turquie a toujours un peu joué ce rôle de pays pivot. Hein, à l'époque de l'OTAN, c'était aussi un pays ultra stratégique parce que c'était le seul pays riverain, hein, non communiste de la mer Noire, qui tenait les détroits. Mais on peut observer dans le rapport, justement, russo-turc dont on parlait tout à l'heure, l'intérêt pour les Russes, on ne sait pas encore véritablement s'ils veulent faire de la Turquie un véritable allié. En même temps, l'intérêt, c'est que c'est un pays de l'OTAN qu'on arrive à décrocher de l'OTAN. Il y avait cet été un article très intéressant dans la presse russe, anglophone, ce qui m'a permis de le lire, hein, qui s'appelait « À propos de la Turquie, Our Man in NATO », notre homme dans l'OTAN. Mmh. Et je crois que ça, c'est quand même très, très révélateur pour les Russes. Ce qui intéresse d'abord avec la Turquie, c'est effectivement qu'on a un pays qui est dans une situation très ambiguë au sein de l'OTAN.
Mais je ne suis pas sûre que ce soit... Enfin, en tout cas, c'est intéressant d'en débattre. Est-ce que la Turquie, non membre de l'OTAN... Alors déjà, pour sortir de l'OTAN, c'est assez compliqué. Vous allez nous le confirmer, Pascal Ossard. Il faut l'unanimité. Mais est-ce qu'une Turquie hors OTAN continuerait d'intéresser autant la Russie qu'elle le fait aujourd'hui? Pascal Ossard.
Mon analyse, c'est que la Russie et la Turquie ne sont pas au même niveau, géopolitiquement parlant. C'est-à-dire la Russie est un cran au-dessus. Elle manipule, elle se place aujourd'hui en position de juge de paix au Proche-Orient. Et elle joue avec la Turquie, comme elle joue avec l'Iran, avec la Syrie, elle joue avec les Kurdes, et elle joue avec les Américains. Et tout le monde joue, mais les Russes sont vraiment en position de force. Moi, c'est ce qui me frappe. Les Turcs, eux, ils sont pris un peu à la gorge avec les migrants, avec les Kurdes, avec les élections qui rendent la position d'Erdogan très compliquée. Et je pense que l'agressivité turque en Méditerranée orientale est aussi liée à la fragilité du gouvernement et d'Erdogan. Ceci dit, il se retrouve sur pas mal de points. Il se retrouve, à mon avis, dans l'anti-occidentalisme. Ça, c'est clair. Et c'est quand même une donnée nouvelle. Cette sortie du multilatéralisme va de pair avec un anti-occidentalisme un peu général, hein, global. Et là, on le retrouve très concrètement. Il se retrouve donc dans leur position plutôt plus agressive du fait accompli, ce qui s'est fait en mer d'Azov, se fait actuellement au sud de Chypre, c'est-à-dire une des décisions unilatérales et des prises de position avec des bateaux pour se confronter aux autres acteurs de façon brutale. En l'occurrence, la brutalité n'a pas pu aller au bout puisque les autres ont reculé, mais prêts à aller jusqu'au conflit, jusqu'à rapport de force. Et là, ils se retrouvent tout à fait. Et puis, il y a un dernier point qui, pour un marin, est important, et qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres cas, les puissances émergentes aujourd'hui sont des puissances territoriales. C'est des puissances de la terre et non pas des puissances de la mer. Et ça, c'est une rupture. Pendant des décennies, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Occident, l'Ouest, Europe, dominaient les mers. Et ce sont des nations, des pays qui ont une culture maritime, des nations de marchands. Et ils sont très à l'aise avec cette notion de bien commun. La mer n'appartient à personne et on ne se l'approprie pas parce qu'on n'a pas envie que l'autre se l'approprie. Et donc, il y a un jeu sur mer qui n'est pas le même que le jeu sur terre.
Le jeu sur terre, il est beaucoup plus dans la confrontation et dans l'appropriation. C'est ça que j'entends.
Absolument. Pascal, le jeu sur terre, il est dans l'appropriation, il est dans la délimitation de frontières. Ce qui est à moi, et il n'est pas à toi. Peu de gens peuvent s'approprier la mer comme ça. Et sinon, ça marcherait plus. Sinon, on pourrait plus naviguer et le commerce s'effondrerait et l'utilisation de la mer comme vecteur de déplacement et de rapport de puissance et de déplacement de puissance ne pourrait plus avoir lieu de la même façon. Il se trouve que les grandes puissances émergentes aujourd'hui, ou réémergentes, la Russie, la Chine, et plus régionalement la Turquie ou l'Iran, sont des puissances de culture terrienne. Et donc, la tentation de s'approprier les choses, et moi je crois qu'on le voit très bien avec l'affaire des hydrocarbures au sud de Chypre, il y a plusieurs options de façon de gérer ce genre de problème. Comment on se répartit la manne gazière? Idéalement, on se la répartit, on partage, et on essaye de trouver une organisation gagnant-gagnant. Il y a une autre logique qui consiste à dire moi je m'approprie un certain nombre de zones, et puis je fais ce que je veux dans cette zone, et j'empêche les autres de venir le faire. Et c'est un peu la logique dans laquelle s'est placée la Turquie, je pense, parce qu'elle est en position de fragilité, mon premier point, mais aussi parce qu'il y a une culture du rapport de force territorial qui n'est pas celui d'une nation maritime.
Ce sont les Russes qui aujourd'hui dominent la Méditerranée orientale. Igor Delanoë.
Je dirais qu'en tout cas, ils contestent cet environnement-là. Ils ont un certain nombre d'éléments, de leviers qui leur permettent de mener la vie dure aux marines otaniennes ou d'ailleurs à la marine turque. Enfin, je fais une exception, elle est dans l'OTAN, mais on sait que dans cette région-là, comme on l'a dit, elle se comporte de manière un peu différente, grâce au déploiement auquel ils se sont livrés en Syrie, d'un certain nombre de systèmes, donc de brouillage électronique, de systèmes d'armement, de systèmes de missiles anti-surface, etc., qui évidemment causent un certain nombre de problèmes et diminuent la permissivité de cet espace, d'ailleurs pas seulement aux marines, mais aussi aux flottes aériennes de l'OTAN. Cela dit, je voudrais juste revenir sur ce qu'on a dit sur Russie-Turquie, ce qui fera le lien avec la question sur l'OTAN. Je pense qu'effectivement, la Turquie est plus utile, si on se place dans cette logique-là, est plus utile à la Russie, en restant dans l'OTAN, en tant que perturbateur, plutôt que si elle sortait, qu'elle devenait un petit peu un électron libre. Là, évidemment, on se pose des questions un peu sur l'identité de l'Alliance, avec une Turquie qui joue un petit peu son agenda, avec tout ce qui se passe en Syrie, comment l'OTAN doit réagir par rapport à ce qui se passe en Syrie, à l'incursion de la Turquie en Syrie. On a vu M. Stoltenberg faire des déclarations très très policées, pour pas dire plus. Évidemment, ça c'est assez intéressant dans cette logique d'essayer d'éroder le lien transatlantique. Donc ça, évidemment, là on peut comprendre l'intérêt. Et je crois que la dimension politique qu'évoquait l'amiral Osseur est très importante aussi, c'est-à-dire que lorsqu'il y a le coup d'État manqué en 2016, Erdogan se rend compte que les Occidentaux, quelque part, attendent de voir ce qui se passe, peut-être espèrent-ils ou pas que Erdogan va être renversé avant de réagir, alors que Poutine, tout de suite, contacte le président turc et lui affirme très solidement de son soutien. Et ça, évidemment, ça fait la différence. Et enfin, dans la relation russo-turque, il ne faut pas négliger l'aspect mer Noire qui est structurel dans la relation, puisque les deux sont des puissances riveraines de la mer Noire, sont des puissances voisines depuis des siècles. Et au cœur, si vous voulez, de cette relation qu'ils ont nouée dans la région de la mer Noire, qui aujourd'hui est un condominium sécuritaire russo-turc, mais de plus en plus russo-russe, en quelque sorte, au cœur de cet espace, on trouve la question des détroits. Et là, il y a véritablement une convergence très puissante de vue entre les deux pour dire qu'il ne faut pas remettre en question la convention de Montreux, que c'est un système qui marche bien. Et ça, évidemment, ça agit un peu comme du ciment, si vous voulez, dans leur relation. Et je dirais que quand vous êtes en Turquie, quand vous êtes à Istanbul, que vous regardez autour de vous, vous êtes quand même aussi pas mal cerné par les Russes. Vous avez les Russes dans le Caucase, en mer Noire, qui passent dans les détroits, en Méditerranée orientale, en Syrie. Vous n'avez pas le choix. Vous devez discuter avec eux, vous devez vous entendre avec eux.
Pierre Razou.
Je crois qu'en fait, il ne faut pas non plus surévaluer la puissance russe, y compris navale russe en Méditerranée. Elle est de nouveau là, c'est de nouveau un acteur alors que ça ne l'était plus. Mais il faut bien comprendre, quand on regarde le rapport des forces réelles, que si les Européens et les Occidentaux s'en donnent les moyens, je veux dire, ils ont tout à fait les moyens de reprendre le contrôle de la Méditerranée, y compris sur le plan naval et militaire. Simplement, ça implique, un, de s'en donner les moyens, donc d'avoir une véritable vision politique, c'est-à-dire qu'il faut, si on s'en donne les moyens, on est prêt à aller, entre guillemets, au clash avec ceux qui vous contestent cette supériorité maritime. Et ça veut dire aussi qu'il faut en accepter les risques. Les risques, c'est que s'il y a un affrontement, soit vous décidez d'emblée que vous allez retraiter, dans ce cas-là, il vaut mieux pas y aller du tout, soit au contraire, vous dites non, je tiens à affirmer la souveraineté internationale ou les intérêts européens en Méditerranée, je m'en donne les moyens et j'accepte le risque. Ce qui m'amène juste sur un dernier point, comme le disait Igor, je suis tout à fait d'accord, il faut pas raisonner là aussi qu'en Méditerranée orientale, mais en mer Noire et en mer Rouge. Et c'est vrai que là, pour le coup, en mer Noire, les Russes ont un avantage colossal. Par contre, la vraie question demain, ce sera qu'est-ce qui va se passer en mer Rouge. Mon intuition, c'est qu'en fait, les foyers de crise et de tension vont, avec le temps, transiter de Méditerranée orientale en mer Rouge. Et disons que demain ou après-demain, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer en mer Rouge et qui dominera la mer Rouge. Et ça, c'est une vraie question.
Pascal Hausser.
Oui, il est clair que c'est parce que les Américains se sont désengagés que les Russes sont si puissants et que les Turcs ont de la marge de manœuvre. Si la présence américaine était aujourd'hui ce qu'elle était pendant la guerre froide, il n'y aurait pas photo entre les capacités militaires des uns et des autres. Donc c'est vraiment les Américains qui ont été le changeur de jeu. Et comme au jeu de Go, quand vous vous enlevez des pions, et ben d'autres vous prennent votre place. Et finalement, à la fin, tout d'un coup, vous découvrez qu'ils sont en domination. Donc ça pourrait changer si les Américains changeaient. Et puis bien sûr, il faut dire un mot des Européens. Aujourd'hui, les seuls Européens qui sont vraiment présents en Méditerranée orientale, c'est les Français. Mmh. En mer, c'est évident, et même à terre. Mais si les Européens décidaient de façon conjointe de peser, ça pourrait simplement d'avoir une stratégie et d'affirmer sa stratégie et se donner les moyens, et comme dit Pierre, d'assumer les risques qui vont avec cette stratégie, d'agir et défendre leurs intérêts, et défendre le droit et défendre le multilatéralisme dans cette région. Les Européens ont les moyens techniques de le faire.
Jean-Marc Roux, je voudrais revenir avec vous sur la relation difficile aujourd'hui de la Turquie, à la fois avec l'OTAN, on l'a évoqué, avec les États-Unis et avec l'Union Européenne. Le point central aujourd'hui par rapport à Ankara, c'est à tout prix éviter une rupture.
Oui, mais je crois que le problème est plus large. C'est un peu le problème, effectivement, des Américains, parce que la position américaine a beaucoup déstabilisé. Il n'y a pas que une raison turque, je dirais, à cette déstabilisation. La position américaine, si vous regardez bien, quand même, si on fait la synthèse depuis plus de 20 ans maintenant, c'est une tendance globale au retrait. Bon, les Turcs ont été très déstabilisés également par l'attitude des États-Unis dans le conflit syrien, qui s'était engagé à intervenir. Il y avait eu cette affaire de ligne rouge. Et quand est-ce que les Russes sont vraiment rentrés dans le conflit syrien diplomatiquement? À l'occasion de la ligne rouge, du franchissement de la ligne rouge.
Par les Syriens. Pas de réaction côté américain.
Pas de réaction côté américain. Et ce que font les Américains, c'est finalement de donner à la Russie la possibilité de détruire le stock d'armes chimiques syriennes. D'ailleurs, les Russes qui avaient nié l'existence de ce stock, après, ont dit, mais si, il y a effectivement un stock et on peut vous aider à le déstructurer. Donc les Turcs voient d'une certaine manière les Américains, parce qu'ils ne veulent pas intervenir, faire rentrer les Russes dans le conflit diplomatiquement. Et deux ans plus tard, en septembre 2015, les Russes rentrent militairement. Et il faut pas oublier qu'il y a eu ce grave incident entre la Russie et la Turquie en 2015, deux mois après l'entrée de la Russie dans le conflit syrien. Pourquoi? Parce que les Turcs étaient affolés de voir ce qui se passait dans les villes du nord de la Syrie, les bombardements. Elles se retrouvaient effectivement avec ce cauchemar de la question d'Orient, c'est-à-dire la Russie sur ses frontières sud comme jamais. Donc, je crois aussi que pour que le scénario optimiste de Pierre Azou finalement fonctionne, il va falloir que la politique américaine évolue aussi, parce qu'on peut tabler effectivement sur la construction d'une vraie politique européenne de la défense où la France jouera un rôle fondamental, mais pour l'instant on n'en est pas encore là et beaucoup de choses dépendent encore de la position américaine, malheureusement.
Il faut que la politique américaine évolue. C'est sur cette phrase qu'on termine cette émission. Merci en tout cas Jean-Marc Roux, je rappelle que vous êtes directeur des relations internationales et directeur du master Méditerranée Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble. Pascal Hausser, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, think tank basé à Toulon et fondateur de l'Observatoire stratégique des mondes méditerranéens avec un consortium d'universités. Pierre Razou, historien spécialisé dans les conflits contemporains et les relations internationales, directeur de recherche à l'IRSEM. Pascal Hausser et Pierre Razou, je rappelle la direction de votre ouvrage, La Méditerranée stratégique, laboratoire de la mondialisation. Et Igor Delanoé, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe à Moscou, spécialiste de la Russie, particulièrement des intérêts et des ambitions de Moscou dans le bassin méditerranéen. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Laurie Plisson et Véronique Durand. Demain, nous poursuivrons notre regard sur la Méditerranée et nous évoquerons particulièrement la Chine. À demain. Carrefour de